Chapitre 3. Lundi, 13h. Je rencontrai ma nouvelle patiente et compris aussitôt que le commandant Didi Warren était une sceptique dans l'âme. Rien qui me surprenne outre mesure. J'étais spécialisée dans le traitement de la douleur depuis assez longtemps pour avoir suivi quantité de professionnels des situations d'urgence. Officiers de police, ambulanciers, pompiers. Des gens attirés par des carrières qui exigent le meilleur d'eux-mêmes, sur le plan physique comme mental. Des gens qui ne sont jamais mieux qu'au cœur de la mêlée, à prendre des décisions, à agir, à dominer le cours des événements. Bref, des gens dont ce n'est pas le fort de rester sur la touche pendant qu'une thérapeute en tailleur à 1 000 $ leur explique que la première étape pour calmer une douleur, c'est d'entrer en contact avec elle, de lui donner un nom, d'établir une relation. Vous voulez rire ? Didi Warren s'était assise avec raideur sur une simple chaise en bois, plutôt que sur le canapé bas qui lui tendait les bras. Je n'avais pas besoin de consulter son dossier médical pour deviner qu'elle souffrait d'une douleur aiguë au cou et à l'épaule. Cela se lisait dans la rigidité de sa posture, dans sa façon de pivoter d'un bloc pour observer la pièce au lieu de simplement tourner la tête. Sans parler de son bras gauche, qu'elle gardait collé au corps comme pour prévenir un nouveau choc. Quelque chose me disait que cette enquêtrice à la chevelure blonde avait rarement été décrite comme une femme au visage doux. Mais là, avec ses cernes foncées, sa bouche sévère et ses joues creuses, elle avait l'air dure et faisait bien plus que son âge. Je fonde ma pratique sur le modèle IFS, ou Système Familial Intérieur, expliquai-je patiemment. Elle leva un sourcil, sans un mot. L'IFS part de l'hypothèse qu'il est possible de décomposer le psychisme en plusieurs parties. La première et la plus importante est le self, qui devrait être le leader de toutes les autres. C'est lorsque votre self est clairement distinct et placé au-dessus des autres composantes du système que vous êtes le mieux à même de comprendre, contrôler et dominer votre douleur. « Je suis tombée dans les escaliers », rappela Didi. « Si mon self était censé contrôler ça, c'est un peu tard. » Posons la question autrement. Est-ce que vous souffrez ? En ce moment, vous voulez dire ? En ce moment ? Évidemment. D'après les médecins, mes tendons ont arraché un bout de l'os de mon bras gauche. Ça fait mal. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant une gêne légère et 10 la souffrance la plus atroce que vous puissiez imaginer. L'enquêtrice fit la moue. 6. Donc, un peu au-dessus de la moyenne. Forcément, il faut se laisser de la marge. Ce soir, il y aura la douche, alors on grimpera à 7. Ensuite, j'essayerai de dormir, et là je dirais que c'est un 8 parce que je n'arrête pas de me tourner sur le côté gauche. Et puis, il faudra se lever demain matin, ce qui nous donnera facilement un 9. Qu'est-ce qui serait un 10, d'après vous ? Je ne sais pas encore, rétorqua Didi. Je suis encore une nouvelle venue au royaume des estropiés, mais d'après ce que j'ai vu, les kinés sont là pour vous le faire découvrir. Je souris. Beaucoup de mes patients seraient bien d'accord avec vous. Je connais cette échelle. Russ Hilg, mon bourreau personnel, m'en a déjà expliqué le principe. Ne pas voir la douleur comme un point, mais comme un spectre. Où se trouve le curseur en ce moment même, cet après-midi, aujourd'hui, cette semaine ? Comme ça, au lieu de se contenter d'avoir mal, on peut explorer tout l'arc-en-ciel de la douleur. Un truc de ce genre. Il vous demande d'évaluer l'intensité de votre douleur pendant les séances ? C'est ça. Il lève mon bras gauche, je pousse un petit cri. Il me demande de respirer par la bouche, encore un petit cri. Il me demande si je suis déjà à 8. Si je réponds que non, il lève mon bras de quelques centimètres supplémentaires. Didi ne me regardait plus. Ses yeux fixaient un point au-dessus de mon épaule droite, sur le mur, tandis que sa jambe droite était agitée d'un tressautement nerveux. J'avais parcouru ses comptes rendus d'examen. La fracture par arrachement de son épaule gauche était une lésion particulièrement rare et douloureuse, qui appelait un remède encore plus cruel, la kinésithérapie. Beaucoup d'exercices à la limite du soutenable destinés à empêcher l'épaule de s'ankyloser et à prévenir au maximum la formation de tissus cicatriciels. D'après son dossier, elle faisait 2 séances par semaine. Il y avait fort à parier qu'elle les terminait les joues sillonnées de larmes. Je me demandais quel effet ça devait faire à une femme habituée à tout contrôler. Donc, vous prenez le temps d'observer et d'évaluer votre douleur. Elle esquissa un mouvement de la tête qui était peut-être un oui. Souvent, insistai-je. Eh bien, quand Russ me le demande, vous voyez. Donc, pendant les séances du kiné? Voilà. Et chez vous? Imaginons que vous vous réveilliez au milieu de la nuit et que vous ayez mal. Que faites-vous? Elle ne répondit pas tout de suite. Je pris mon temps, attendis en silence. Je m'ordonne de me rendormir. Et ça marche? De nouveau ce mouvement, ce oui de la tête qui n'en était pas un. Est-ce que ça vous plaît d'être ici? Lui demandai-je brusquement. Elle parut décontenancée. Comment ça? Aujourd'hui, en ce moment, est-ce que ça vous plaît d'être dans mon cabinet et de me parler? L'enquêtrice cessa de fixer le mur pour me regarder dans les yeux, d'un œil noir. Rien d'étonnant. Certaines personnes intériorisent leur douleur, et d'autres l'extériorisent, s'en prennent à leur entourage. Pas difficile de deviner à quelle catégorie appartenait Didi Warren. Non, répondit-elle sèchement. Alors pourquoi êtes-vous venu? Je veux reprendre le travail, j'aime mon métier. Elle était moins hostile, davantage sur la défensive. Vous êtes enquêtrice dans la police criminelle, c'est ça? Oui. Et vous aimez votre travail? Je l'adore. Je vois. Donc votre blessure, votre incapacité à travailler, ça doit vous peser. Je suis en arrêt maladie. Ça paraît clair à première vue. Tant que vous êtes blessé, vous restez chez vous. Dès que vous êtes rétabli, vous reprenez le travail. Mais comme toute bureaucratie qui se respecte, le service aime faire des complications. Mon épaule va peut-être guérir, mais ma tête. Est-ce que je suis encore l'enquêtrice sereine et maîtresse d'elle-même que j'ai été? Je retrouverai peut-être la capacité physique de monter à l'assaut en cas de situation critique, mais est-ce que je le ferai? Ou bien est-ce que je resterai en arrière par crainte de bousculer mon côté gauche, de me froisser l'épaule? L'administration ne voudrait pas que ma tête reste à la maison pendant que mon corps retournerait au travail. Ça peut se comprendre, mais en même temps. Vous êtes ici pour faire plaisir à vos supérieurs. Disons les choses comme ça. Le commissaire adjoint de la brigade m'a remis votre carte en main propre et j'ai reçu le message 5 sur 5. Dans ce cas, quel est votre plan? Lui demandai-je en me penchant vers elle, réellement intéressée à présent. Une seule séance avec moi ne suffira pas. Personne ne croira que vous avez pris le traitement de votre douleur au sérieux. 6 séances, ce serait peut-être un peu excessif. Je tablerai sur 3. Vous venez 3 fois et ensuite, on voit si on reprend des rendez-vous. Pour la première fois, l'enquêtrice sembla impressionnée. Je me disais justement que 3 serait un bon chiffre. Parfait, adjugé. Mais il faudra prendre vos séances au sérieux, c'est ma condition. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je raconte, mais puisque nous sommes appelés à nous voir 3 fois, autant que vous écoutiez et que vous fassiez vos devoirs à la maison. Mes devoirs à la maison? Exactement. Votre première mission sera de donner un nom à votre douleur. Quoi? J'avais de nouveau toute l'attention de cette chère enquêtrice, sans doute parce qu'elle me prenait pour une illuminée. Donnez un nom à votre douleur. Et la prochaine fois que vous vous réveillerez en pleine nuit, au lieu de vous forcer à vous rendormir, je veux que vous vous adressiez à votre douleur en l'appelant par son nom. Parlez-lui. Et ensuite, écoutez ce qu'elle peut avoir à vous dire. File-moi des médocs, par exemple, murmura Didi. Je souris. À ce propos, vous prenez quelque chose? Non. Pour quelle raison? De nouveau ce demi-hochement de tête ou peut-être un demi-haussement d'épaule. Dites non à la drogue, tout ça. Ordonnance ou pas, on franchit vite la ligne rouge avec les psychotropes et je préférerais éviter. Vous avez peur des médicaments? Pardon? Ça arrive. Certaines personnes ont peur de l'état dans lequel les mettent les médicaments. Ils ont peur de devenir dépendants. Je ne dis pas que c'est mal. Je pose simplement la question. Je n'aime pas ça, c'est tout. Ce n'est pas pour moi. Vous vous jugez au-dessus de ça? Vous me caricaturez. Et vous, vous éludez ma question. C'est vrai que vous êtes insensible à la douleur. Je souris, me carré dans mon fauteuil et jeté un coup d'œil à l'horloge. 22 minutes, constatai-je. L'enquêtrice n'était pas idiote. Elle regarda l'horloge murale à côté de mon bureau et se renfrogna. Vous êtes dans la police. Il va sans dire que vous avez mené votre petite enquête sur moi. Et comme le Boston Herald et un grand nombre de revues scientifiques se sont passionnés pour ma maladie, vous avez pu glaner pas mal d'informations. Ne restez plus qu'à attendre le moment où vous auriez besoin de détourner l'attention, d'esquiver. La meilleure défense, c'est l'attaque, n'est-ce pas ? Je parlais d'une voix égale. Pour que les choses soient dites, je ne ressens aucune douleur physique, d'où il s'ensuit que je n'ai rien de mieux à faire que de me concentrer sur la vôtre, et vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Vous considérez-vous comme une dure à cuire ? Oui, lâcha-t-elle. Tellement que votre dos, votre épaule n'ont pas le droit de vous ralentir comme ça.
Je ne peux même pas me laver les cheveux.
J'attendis. Je ne peux pas prendre mon fils dans mes bras. Il a 3 ans. Et hier soir, il est venu me faire un câlin et j'ai reculé parce que je savais que ça ferait mal.
L'idée de cette douleur était insupportable.
J'attendis. Tous les médecins disent que ça va s'arranger. Faites ci, prenez ça. Mais en attendant, je ne peux pas dormir, pas bouger. Et je n'ai même pas plaisir à me prélasser au lit parce que je le déteste, ce fichu lit. Ça me fait trop mal de me coucher et de me relever. Je suis vieille, je suis cassée et pratiquement au chômage. Merde ! Puis, putain de connerie, de bordel de merde, quelle saloperie ! Melvin, suggérai-je. Quoi ? Didier releva la tête, une lueur fauve dans les yeux. C'était un regard que j'ai observé bien des fois au cours de ma carrière, celui d'un animal blessé. Melvin, répétai-je calmement. Je crois que c'est comme ça que vous devriez appeler votre douleur. Connerie de bordel de merde de Melvin. Et chaque fois qu'il vous dérange, vous l'engueulez, vous le maudissez. Pourquoi pas ? Vous pourriez réellement vous sentir mieux et découvrir que mettre votre self aux commandes diminue Melvin et renforce votre self. Est-ce que ce ne serait pas ça qui vous manque en fait ? Vous sentir forte ? Melvin, ce n'est qu'une proposition. L'important, c'est que ce soit un nom qui fasse écho chez vous. Vous prenez combien de l'heure déjà ? Eh, je suis docteur en médecine et j'ai toute une kyrielle de titres derrière mon nom. Melvin, j'en reviens pas. Ma douleur s'appelle Melvin. Le modèle IFS divise la psyché en 4 parties. Au centre, il y a votre self, le leader naturel du système. Ensuite, il y a la section qu'on appelle les exilés, celle dans laquelle se trouvent les souffrances et les traumatismes que vous n'êtes pas encore prête à affronter et que vous avez donc mis de côté. Malheureusement, les exilés ont besoin de s'exprimer. Et ils continueront à se manifester sous forme de colère, de terreur, de tristesse et de honte, jusqu'à ce qu'on les entende. Quand le groupe des exilés fait des siennes, le groupe suivant, les pompiers, entre en action. Leurs techniques classiques de lutte contre l'incendie sont l'abus de drogue, d'alcool, de nourriture et autres méthodes à court terme pour juguler une douleur qui ne passe pas. Et pour finir, il y a les managers, qui tentent aussi de dompter les exilés en exerçant un contrôle extrême sur chaque situation. Tout ce qui consiste à être exigeante envers vous-même, à vous juger, à vous critiquer, vient des managers. Pour résumer, votre souffrance ou votre traumatisme en exil provoque une détresse émotionnelle qui incite les pompiers à se livrer à divers actes d'autodestruction et les managers à divers actes de répression. Et le cycle infernal continue. Vous passez par différents modes de dysfonctionnement parce que le self central n'est pas aux commandes.
Je suis tombée dans les escaliers.
Oui ?
Je ne vois pas le rapport avec les exilés, les pompiers et les managers. Où j'oubliais avec mon vrai self.
Votre chute est le traumatisme. Elle a provoqué de la douleur, mais aussi de la peur, un sentiment d'impuissance et d'infirmité. L'enquêtrice se voûta légèrement, tressaillit.
Ces émotions sont vos exilés, expliquai-je avec douceur. Elles réclament à corps et à cri d'être entendues. Les pompiers du système pourraient répondre par un besoin compulsif de boire ou de vous bourrer de médicaments. Je ne prends rien.
Dans ce cas, les managers montent au créneau, continuai-je.
et exerce une surveillance étroite sur tout le système en contrôlant et en jugeant votre réaction à la douleur. En fait, en exigeant de vous que vous soyez suffisamment forte pour faire ça. Didi semblait un peu éberluée. Elle me regarda pendant une longue minute, puis elle parut accepter cette idée. « Les exilés doivent être entendus, » murmura-t-elle. « C'est pour ça que vous voulez que je parle à ma douleur. » « Melvin, en règle générale, c'est plus facile d'avoir une conversation quand l'interlocuteur a un nom. »« Et que va me dire Melvin ?»« Hé, j'ai mal, je suis impuissant, je déteste les escaliers, et moi je vais répondre « Ok !» et comme ça ma douleur s'en ira. » « Et comme ça, votre douleur vous semblera peut-être plus gérable. » Le reste du système pourra se détendre pendant que votre self profond passera au premier plan. Il faut savoir qu'il existe un très grand nombre d'études sur la douleur. Une de leurs conclusions les plus intéressantes est que tout le monde souffre, mais que seuls certains le supportent mal. Ce qui signifie, pour dire les choses familièrement, que tout est dans la tête. « Je crois, » articula lentement l'enquêtrice, que c'est le plus gros ramassis de conneries que j'ai jamais entendu. Il va pourtant falloir vous y faire. Fin de la première séance. Plus que deux. Didi me gratifia de son haussement d'épaule maladroit. Se leva. « Connard de Melvin !» dit-elle à mi-voix. « Et puis, ça me plaît assez de l'insulter. »« Commandant, » la rappelai-je alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Étant donné que nous n'avons plus que deux rendez-vous, quel serait l'objectif prioritaire à vos yeux? Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir en ce moment pour que nous puissions travailler dans cette direction?
Je veux me souvenir, répondit-elle aussitôt.
Vous souvenir?
De ma chute. Elle me regarda d'un air interrogatif. Vous êtes tenu au secret médical, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Ma blessure. Je suis tombée dans les escaliers sur une scène de crime. J'ai tiré des coups de feu. Le problème, c'est que je ne me souviens ni de ce que je faisais là, ni de la personne sur qui j'ai tiré.
Intéressant. Commotion cérébrale?
C'est possible. D'après les médecins, ça peut entraîner une amnésie.
Quelle est la dernière chose dont vous vous souveniez?
Elle garda le silence si longtemps que je crus qu'elle n'avait pas entendu ma question. Puis,
l'odeur du sang, murmura-t-elle. La sensation de la chute. Ton grand bébé, berceau et le reste.
Commandant?
Oui.
Au milieu de la nuit, quand vous aurez fini de maudire Melvin, je veux que vous lui posiez une question. Je veux que vous lui demandiez pourquoi il refuse de se souvenir.
Vous êtes sérieuse?
Très sérieuse. Et ensuite, je veux que vous lui disiez que tout va bien, que vous êtes en sécurité et que vous pouvez affronter ça maintenant.
Affronter le souvenir de ce qui s'est passé.
Voilà. Et ensuite, préparez-vous, commandant. Il se peut que Melvin ait une excellente raison de vouloir oublier.